Bienvenue à la French Collection épisode 146, je suis avec Damien.
Salut tout le monde, bonjour, bonjour.
Et Steve.
Bon week-end à tous.
Donc, commençons avec les Shameless Plug. COVID-19, hein, regardez, c'est la vie, on est encore dans ce moment-là. Et Steve a l'air un peu étonné de l'événement, je pense qu'il n'a pas su le mémo. Bref. Il y a les weekly du Hackfest pour permettre de socialiser dans ce moment de confinement-là. Communauté du Hackfest sur le Slack pour discuter. Énoncez vos préoccupations parce que c'est quand même des situations qui sont anxiogènes. Donc, si vous avez des préoccupations, venez en parler. Venez justement exprimer votre anxiété pour l'aider à s'exprimer, se sortir. Qu'elle ne reste pas juste pris en dedans. Et il y aura probablement, des conférences dont Damien et Steve vont présenter dans le cas d'une semaine numérique virtuelle dans laquelle le Sécure, qui aurait dû avoir lieu il y a 5 jours, au moment de cet enregistrement-ci, vont reprendre un peu les sujets sur des formes peut-être un peu allégées, mais quand même très agréables de ce genre-là. On vous tiendra au courant quand on aura plus d'informations sur ce sujet. Commençons avec les nouvelles. Damien, des applications COVID-19 qui font polémique.
Oui, alors en Europe, de plus en plus de pays, mais partout dans le monde, hein, parce qu'on l'a vu en Corée, on l'a vu au Japon, les fameuses applications qui sont censées nous aider ou en tout cas alerter les personnes qu'on a pu croiser avec potentiellement le Covid, ou en tout cas ils ont été impactés, touchés, voire même été hospitalisés. Et donc il y a de plus en plus de gens qui critiquent le sujet parce qu'on se rend compte que ces applications vont clairement rentrer dans nos vies privées. Et là il y a cette fameuse application européenne, vous retrouverez d'ailleurs le lien, hein, sur sécurité.fm, où des chercheurs qui avaient participé à la mise en place d'une application européenne, eh bien ils ont quitté le navire, considérant qu'il n'y avait pas, eh bien, toutes les assurances que ces applications ne vont pas trop collecter d'informations sur les personnes. Donc, c'était plutôt intéressant. Et c'est plutôt intéressant de voir que tout le monde découvre, pardon du terme, hein, ce grand bordel. On n'a jamais été confronté par ça et que aujourd'hui, tout le monde essaye de trouver des solutions. Mais on se rend compte que toutes ces solutions aujourd'hui sont obligées d'être impactées par le numérique, par des connexions quelles qu'elles soient, nos téléphones portables. Et donc là, tous ces gens découvrent que l'informatique, les internets, le téléphone portable, ça collecte beaucoup de données. Donc tous ces gens-là découvrent ça comme si c'était une grande nouveauté. Et les gars, regardez, ou mesdames, hein, regardez tous les jeux vidéo. Regardez tous ces jeux vidéo qui sont offerts en ce moment. Regardez ces grandes sociétés. Oh, je vais prendre cette société qui vient de sortir un jeu vidéo qui explique qu'il vaut mieux couper son antivirus parce que il y a une confrontation, parce que pour leur sécurité, l'antivirus pense que c'est un malware. Regardez rien que déjà de ce côté-là, tout ce qui est déjà aspiré en information. Donc voilà, très très compliqué.
Ouais, c'est complètement fou. De toute façon, moi, d'un côté entreprise, on a déployé des solutions supplémentaires justement face à cette situation dans laquelle nous sommes. Et les EDR, ils lèvent des alarmes de façon fascinante à l'heure actuelle. Les gens sont dans un contexte qui sont nouveau, puis ils sont pas sur à la maison. Puis là, ça devient toute la dichotomie entre la sécurité d'entreprise et la sécurité domestique. Et c'est à quel point c'est dommage qu'il n'y ait pas de propagation de un vers l'autre. Il devrait y en avoir une, parce que juste les EDR qu'on voit en entreprise, si on avait ça sur nos ordinateurs de maison, quitte à ce que ça soit local sur nos machines ou peu importe la solution qu'on pourrait avoir, viendrait nous montrer à quel point on fuite, à quel point il y a des applications fantômes qui vivent sur nos machines, qu'on n'a juste aucune idée.
Les gens ont oublié aussi un petit détail. Enfin, oublié non, parce qu'on en parle souvent. Là, en France, il y a la CNIL, par exemple, qui en parle encore. Mais partout, il y a des commissions nationales informatique et liberté. Vous savez, si Google nous a offert plein d'outils gratuits, c'est qu'il y trouvait son avantage parce que c'était économique. Que si Facebook a proposé LinkedIn, TikTok et compagnie proposent des outils gratuits, c'est qu'ils y trouvent un intérêt en collectant nos informations. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, une application téléphonique qui est censé nous dire « Ah, t'as vu ton voisin là-bas ou Monsieur X ou l'environnement a été impacté ?» Il faut pas s'étonner que les informations étaient collectables avant. Je vois pas pourquoi elles ne le seraient pas demain. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Juste pour info, pour ceux que ça intéresse, cette application s'appelle exactement PIP-PT. P-E-P-P-PT. pan-open, privacy, privacy, proximity, tracing. Rien que le terme déjà fait peur. L'URL exacte, vous l'aurez hein, sur le blog. Mais bon, ça montre que les idées sont... elle est très bien, cette idée. Ça permet de continuer à se protéger communautairement parlant, de protéger mon voisin, ma famille, mes amis, mes collègues. Mais aujourd'hui, le numérique, on l'a jusqu'aux oreilles. La preuve, regardez, on est ensemble. Regardez, qui aurait pensé, il y a encore 10 ans, qu'on soit capable de se retrouver à 20, avec des fonds qui bougent, en train de se parler, etc. Voilà, c'est très, très compliqué. Et donc, quand des chercheurs commencent à claquer la porte parce qu'ils trouvent qu'il y a un problème de cybersécurité ou de confidentialité, sans compter aussi, pardon, hein, tous les intérêts professionnels, économiques qu'il y a derrière, qui veulent profiter de ce moment communautaire, c'est l'humain d'abord. On se rend compte que très vite, c'est le business et l'humain d'abord. Voilà. Mais c'est normal, c'est la vie.
Business. Mais effectivement, en ce sens-là, puis oui, je sais qu'Apple et Google ont développé quelque chose pour ça, mais je n'ai pas entendu depuis l'annonce initiale de cette protocole-là, qui semble moins invasif que ce qu'on peut voir de ce que tu mentionnes. Il n'y a personne qui est ressorti puis qui a déclaré ou qui a expliqué de façon claire à quel point où était invasif et où il n'était pas invasif.
Là, mais au moment où ils en parlent, parce que je pense qu'on peut malheureusement aussi leur faire confiance côté sécurisation, c'est quand même eux qui tiennent le monde dans leurs mains, hein, soyons très très clairs. Mais au moment où ils annoncent ça, 2 jours plus tard, tu apprends qu'il y a une superbe faille pour iPhone. On prend l'exemple de Zoom. Zoom, on se rend compte que c'était un peu le bordel. Je l'ai utilisé, Zoom. Je vois le nombre d'écoles qui l'utilisent, Zoom, qui continuent à l'utiliser. Et puis, au moment où ça aide, oh bah tiens, il y a des failles, il y a des concurrents, il y a des gens qui font du bashing, hein, vraiment quand même assez puissant. Ça reste du numérique. Steve, toi, Nicolas, Patrick, tous les amis, tout, même vous le savez, jamais ça sera sécurisé à 100%. Aujourd'hui, il faut aussi admettre que moi, vous, nous, utilisateurs, on doit aussi faire sa propre hygiène numérique. Ah, c'est bien beau, on va nous sortir un iPhone à 500 balles. Tout le monde va vouloir l'acheter. Un super ordinateur pour jouer. Tout le monde va le vouloir. Ouais, mais éduquez-vous aussi. Prenez-vous aussi par la main. Arrêtez d'être... de dire « Ah ben, il est beau, il est grand, il est fort, je vais lui faire confiance. Hein, » mon serpent, mon fameux serpent, j'arrête pas de le dire. « Et confiance !» Les gars, c'est aussi, et mesdames, c'est aussi à vous de vous prendre par la main pour vous sécuriser. Le mail, le mot de passe, mais aussi, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux pas avoir un outil supplémentaire qui va me permettre de mettre... C'est super compliqué. Quand tu vois qu'en plus, maintenant, ils disent « Oui, mais ça va passer par le Bluetooth, etc. » je suis rentré sur la lune, c'est moins gênant, quoique.
Mais là-dessus, Nick, moi, je suis d'avis que quand tu es capable de contrôler le système d'exploitation, tu as accès à tout. Fait que donc, les Android et les iOS s'y mettent. Oui, ça va être encore une fois avec les belles lignes de dictées qui veulent protéger la vie privée des gens, des usagers, leur base de clientèle va être exempt de surveillance abusive des autorités. Mais il reste une fois que c'est intégré dans l'OS, quand est-ce que tu vas savoir que ça va être retiré aussi, si ce n'est pas des laboratoires spécialisés pour être capable de détecter le code avant et après?
Ben, c'est ce genre de choses que Citizen Lab, entre autres, devrait analyser en profondeur. J'ai pas vu d'analyse de Citizen Lab sur cette approche-là.
Non, il n'y en a pas eu encore.
Ça serait intéressant de voir leur point de vue qui est très indépendant, très intéressant. Dans le fond, c'est un des chercheurs qui ont analysé Zoom et qui ont vu à quel point il y avait beaucoup de poudre aux yeux dans le code de Zoom au niveau de sa sécurité et tout ce qui se passait.
Big time,
au niveau de l'émission des clés qui venaient de la Chine, entre autres. Donc, tout ça, ça serait intéressant de voir. Puis parce que j'ai pas vu de commentaires qui ont, autre que lors de la sortie, qui ont chialé un peu, puis bon, c'est tel que tel, mais qui ont vraiment pris le temps d'analyser les travaux de Google et Apple et dire, OK, voici ce qui est bon et voici ce qui est mauvais et voici ce que vous mettez à risque.
Wired, là-dessus, pour te contredire, Nick, a sorti un petit papier plus tôt cette semaine, même la semaine passée, je devrais dire, qui va dans le sens de qu'est-ce que tu apportes. Okay. Mais rien en détail, donc tu as raison là-dessus. Là.
Ben, je veux déjà un papier de recherche à la Citizen Lab, quelque chose qui va vraiment... Parce que c'est très important, parce que à sa face même, c'est positif, mais on ne sait pas ce que ça cache. Puis des fois, c'est comme le serpent. On sait pas si le serpent nous a hypnotisé parce que ça va l'air beau. C'est très séduisant ce qu'ils ont montré. Ou si dans les faits, il y a vraiment quelque chose qui va nous mordre sans qu'on le sache et qui soit mal là-dedans. Donc, bref, Passons à la nouvelle suivante, puis dans le fond, dans la même ordre d'idée, la police de l'Ontario aurait pas la possibilité de savoir si on était infecté malgré tout.
Ben, c'est plutôt justement que les autorités policières de l'Ontario ont été mis en contact, pour pas dire le fait de donner accès à une base de données de gens infectés, donc une discrimination claire d'une portion de la population, alors que c'est supposé d'être des informations quand même relativement privées, en protection de l'information privée des gens. Et là-dessus, donc, la liberté civile, l'Association des libertés civiles du Canada se demande beaucoup comment ça se fait que, un, ils sont fait donner accès, deux, pour quelle raison que cette discrimination-là va rendre positive et de manière préventive que ces gens-là ne seront pas, justement, là, pris différemment. Au contraire, moi, si je le prends d'un côté policier, c'est certain que si tu veux connaître qui est infecté, puis là, tu le ramasses, celui-là, au Costco ou à l'épicerie du coin, puis il est en train de se promener partout, c'est certain, là, tu peux peser fort sur le crayon parce que là, il a contrevenu un paquet de règles, en plus qu'il a mis à risque ses concitoyens. Ça, je peux le voir d'un côté coercitif de cette façon-là. Mais en manière préventive, ça veut-tu dire qu'ils vont aller se présenter chez les adresses de ces gens-là, puis ils vont cogner à la porte, demander « Êtes-vous bien et bien dans votre maison depuis les 10 derniers jours? » Voyons donc. Ça n'a pas aucun sens, puis je trouve que c'est un abus, justement, de pouvoir qu'ils aient accès à cette base de données-là. Ça relève du service de santé, du domaine de la santé. À ce que je sache, il n'y a pas de mesure d'urgence nationale qui a été déclarée, donc les droits civiques sont encore en fonction, sont encore en place, et on a encore une liberté. Et il y a juste une urgence sanitaire. L'urgence sanitaire dicte bien que pour aider qu'à ce que la situation se résorbe rapidement, ben on évite d'aller plus loin. Mais il reste que, légalement parlant, on est en mesure de sortir dehors et respirer l'air frais. Là.
Mais il faut qu'on respire l'air frais, sinon on va juste virer complètement fou. C'est pas. Il y a cette mesure, cet équilibre-là entre les choses. Puis c'est fascinant à quel point on a pris ce qui est jusqu'à présent, parce que peut-être que le futur va me donner tort. C'est moins grave que l'influenza normale pour les chiffres que nous avons présentement.
Oui.
Et on s'énerve davantage avec quelque chose qui est moins grave. Cela étant dit, ce que je dis peut changer dans une semaine, même juste demain matin peut changer.
Exact.
Et pour le moment, on a ces chiffres-là. Et pour une raison qui, cette fois-ci, est différente, on a décidé que la vie humaine est plus importante que les décès par l'influenza. Donc, on est comme dans un changement de sensibilité au risque, et c'est très fascinant ce changement social-là. Puis je ne sais pas d'où il arrive. Pour moi, il est très mystérieux, cette bascule-là qu'on a faite là. Et cette bascule-là va devenir permanente parce que les prochains épisodes d'influenza, les prochains épisodes, on va revivre ce qu'on est en train de vivre actuellement.
Une joke plate que j'ai lu il y a quelques semaines disait que avant ça, il y avait toujours un semblant de possibilité de guérir ceux qui étaient infectés. Donc, les plus puissants, les plus nantis pouvaient s'en sortir éventuellement. Donc, c'est pas grave, là, le petit peuple, assumé. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas rien, il n'y a pas de remède, il n'y a pas rien pour corriger la situation si ces mêmes personnes-là deviennent infectées et impactées. Oups! C'est d'être là que, oh, là, c'est sérieux, faut mettre des mesures en place pour éviter que nous, en haute échelle, on soit impactés. Excuse, là, je fais du coq à l'âne puis un petit peu de démagogie là-dessus, mais ça ressemble à ça pareil. Fait que donc, on est tout le monde, je crois, au même niveau à ce moment-ci. Et t'as raison, Nick. Ça, c'est aussi mystérieux que l'origine qu'on parlait, Damien et moi, tantôt, du virus lui-même.
Oui, mais en tout cas, c'est des changements intéressants. Ça va être des changements permanents. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se découler. Puis ce qu'on dit maintenant peut être renversé. Dès demain, donc. on fait des hypothèses sur la base de ce qu'on dispose comme information présentement.
Yeah.
Passons à une nouvelle suivante. Il y aurait un API en santé qui permettrait de favoriser la collaboration.
Ben, tant qu'à parler d'intrusion dans la vie privée des gens, Google a mis à la disponibilité des professionnels de la santé aux États-Unis une capacité d'aller tracer de l'information client, mais surtout faciliter l'interface entre la personne, le caretaker, celui qui s'occupe des patients, donc le professionnel de la santé, le médecin, envers ses patients. Et comme on sait, aux États-Unis, ben le service santé, c'est un gros business, vraiment, alors qu'ici, ben, c'est un service social en majorité encore, alors qu'il y en a qui prennent beaucoup que ça devienne un peu plus privé. Mais ceci dit, ça rejoint un peu ce qu'on disait, j'apportais tout à l'heure avec... Tout d'un coup, il y a une organisation qui décide que les informations santé sont accessibles envers une personne. Je ne comprends pas à date qu'il n'y a pas de consentement patient qui a été requis et que eux, au nom d'un besoin collectif X, ils ont autorisé l'information à être accessible pour certains membres de la société. Damien?
C'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très important. Quand vous signez un contrat, quand vous signez un document, quand vous rentrez, je sais pas moi, à l'hôpital, dans une boutique, et on vous fait signer un document, je sais que c'est fatigant de tout lire, mais ne signez pas si vous ne regardez pas les petites lignes qui disent éventuellement toutes les informations que vous venez de nous fournir pourront être utilisées à des fins marketing ou des fins de votre bien-être. Non, relisez et ne signez pas. Trop de contrats sont unilatérales. Le problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que ces contrats unilatéraux, avec nos données, eh bien, c'est un double tranchant. Hein. Et le tranchant, croyez-moi, c'est nous qui le prenons, hein, c'est pas eux.
Et dans le même sens, les plateformes de médias sociaux qui, eux, s'approprient de toutes les données qu'on leur confie. Et après quoi, on est powerless, comme on dit en anglais, mais qu'on est vraiment là à la merci de ces grandes organisations-là. Donc, pour Google qui s'investit là-dedans, je vois très bien l'utilisation fantastique de la puissance de Google pour être capable de venir en aide aux professionnels de la santé et aider les concitoyens. Et c'est une mesure, encore une fois, qui est sur une pente, mais glissante, qui s'en va dans un bas-fond là, inimaginable, alors que c'est nullement balisé. Et c'est ça qui est l'enjeu encore aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de mesures, de moyens qui veulent se mettre en place pour aider à un peu diriger les décisions des politiciens sur quelle direction prendre pour qu'on puisse avoir un semblant de vie normale. Mais encore une fois, mesdames, messieurs, faut pas que ça se fasse au détriment de notre liberté et de notre vie personnelle, de la protection de la vie privée, c'est-à-dire parce que ça va donner comme le 11 septembre une façon de voyager qui a changé à tout jamais. Du jour au lendemain, le 11 septembre, ils ont dit « Ah, c'est normal, tous les terroristes passent par les aéroports, faut arrêter ça. » Et tout le monde est des terroristes tout d'un coup. « Ah ouais, tout le monde est des terroristes suspects. » Ah ben, pourtant, il y a des profils très clairs qui étaient identifiés sur qu'est-ce qui étaient ces terroristes-là, mais il reste que « Ah, ben là, faut pas discriminer la religion, faut pas discriminer la culture, faut pas discriminer... » OK? Fait que là, ils ont mis tout le monde égal et tout le monde, à ce moment-là, se font chier quand ils vont à l'aéroport pour prendre l'avion et s'en font exiger toutes sortes d'affaires. Ils peuvent pas apporter une bouteille d'eau qui ont juste mis de l'eau dans l'abreuvoir qui était 5 minutes avant de passer le point de contrôle, mais il faut qu'ils achètent la bouteille d'eau de l'autre côté à 4 $. Fait que c'est des éléments comme ça qui fait réfléchir sur le bien fondé qui est à l'arrière de ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de terroristes qui ont été payés à l'aéroport? OK, il y en a des concitoyens qui vont dire, ben là, franchement, t'exagères. Ben oui, ça a fait un élément de peur. Les terroristes, c'est certain qu'ils n'ont pas été directement à l'aéroport pour commettre le méfait. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on connaît un peu les articles, comment est-ce que se prépare une attaque comme ça, ben il y a des éléments à l'intérieur de l'aéroport qui vont contribuer à amener justement les éléments menaçants pour commettre le méfait. Je veux dire, c'est pas par la porte d'en avant qu'ils vont rentrer. Sauf, ils ont été capables de détecter vraiment des passeurs de toutes sortes d'affaires et ils ont été capables d'aider à décriminaliser justement l'utilisation de l'aviation civile pour justement des fins criminelles. Ça a servi à ça 100 000 à l'heure. Mais 20 ans plus tard, on est encore pris au même point que on a laissé aller en disant « Ah, c'est normal, il faut protéger cet aspect-là de notre société » et on en paye le prix encore aujourd'hui. Heureusement, au Canada, on n'a pas besoin d'enlever nos souliers, c'est fantastique. Mais ailleurs dans le monde, il faut vraiment quasiment que tu te déshabilles au complet. Puis ça a donné lieu à l'installation de scanners corporels très invasifs et que on n'en voit plus bien l'usage parce que les gens ont commencé à porter plainte davantage et c'était préoccupant pour la vie privée. Ils ont dit ouais, puis là, de façon vraiment en catimini, ils ont tassé les scanners. Comptez le nombre que vous rencontrez dans les aéroports à cette heure, c'est vraiment optionnel et c'est vraiment s'il y a un doute sérieux que quelqu'un a quelque chose de dissimulé vraiment dans le body, qui vont l'aiguiller vers là. Mais systématiquement, ils ont été retirés. Fait que ça a été une grosse aventure, là, que ça a coûté cher encore.
Moi, dans les aéroports, je me mets tout nu, ils me disent « Non, non, monsieur, reste habillé, ça va aller.
» Bon, mais toi, t'es une exception, là.
Ouais, mais c'est intéressant, puis ça revient toujours un peu à ce qu'on discute régulièrement sur ce sujet-là. La balance entre la capacité d'intervenir et la balance entre la protection de la vie privée, qu'on ne soit pas des États totalitaires. Et en somme, moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'il faudrait des commissaires ou en tout cas des structures de protection de la vie privée beaucoup plus mordantes que ce que nous avons présentement. Et celle-ci viendrait justement s'assurer que cette balance-là, une fois l'urgence réglée, vienne restabiliser cette balance-là et que les données soient détruites. Mais dans les faits, qui va détruire ces données-là? C'est une fois que tu les as acquises, c'est tellement le fun, on peut faire tout et n'importe quoi.
Mais là, vas-y, Damien, excuse-moi.
Non, je t'en prie. Non, parce que je pensais numérique. Tu me parlais de Google, justement, et de leur puissance. C'est IBM aussi qui a prêté Summit, son super ordinateur. Là, je sais plus c'est combien de pétaflops. Je crois que c'est 200, quelque chose comme ça, avec ses 4000 machines. C'est, ce qui est bien aussi, quand même, c'est que ces grands géants puissent apporter leur puissance de calcul. Et pour venir me raccrocher à toi, Nicolas, le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils collectent comme information? Et l'information collectée aujourd'hui, même anonymisée, qu'est-ce qui me dit que dans un mois, dans un an, elle sera plus facile pour retrouver une personne, retrouver un lieu, retrouver un endroit. C'est complexe, hein? C'est pas évident du tout, cette affaire. Hein?
Et qu'est-ce que je voulais ajouter, Nicolas, avec ce que tu apportais, c'est que les commissaires à la vie privée, exemple, M. Therrien au Canada, et la Commission d'accès à l'information, les fantômes de la protection de l'information au Québec, je les appelle les fantômes parce qu'ils sont nullement présents sur l'espace public. Ils ont publié deux documents récemment, donc le 14 avril sur la pandémie de la vie privée et la protection des renseignements personnels, un avis important, une mise à jour le 31 mars, et respecter les droits des locataires en temps de double crise le 22 avril. Mais il n'y a pas de publicité qui vient jamais avec ça. Puis c'est ce genre de gens-là qui ont le mandat de faire la protection de la vie privée. M. Therrien le représente souvent. Puis à la dernière conférence des protecteurs du citoyen et de la vie privée, je devrais dire juste la vie privée, c'est le protecteur du citoyen, c'est notre organisme. Au mois de novembre dernier, les 10 provinces, 3 territoires et M. Therrien du Canada ont statué ensemble que, un, ils n'ont pas assez de mesures, ils n'ont pas assez de ressources. Deux, les mesures qu'ils proposent à tous les gouvernements de tous les niveaux, ben ils sont pas entendus correctement parce qu'il n'y a aucune suite. C'est-à-dire, M. Therrien, le commissaire à la vie privée du Canada, n'a pas les pouvoirs nécessaires d'intervenir et de porter des accusations, exemple, comme le fait aux États-Unis le SEC. Alors, c'est là qu'il n'y a pas de mordant, comme tu dis, Nick, ça c'est vrai, mais après coup, il manque de personnel pour faire les suivis. Moi, j'adhère encore au fait que il y a toujours pas eu de rapport du commissaire de l'Alberta et de la vie privée du Canada qui ont eu les deux paliers des plaintes des gens sur les caméras qui espionnent les gens qui vont dans un centre d'achat sans leur consentement. Ça fait 2 ans et demi que la plainte a été faite. Toujours pas de rapport. 2 ans et demi? 1 an et demi. Excuse-moi. Un an et 3/4. Et, ça reste comme ça. Donc, ouais, c'est au mois d'août cet été, ça va faire 2 ans. Et c'est là que ça me dit, attends un peu. Ça, c'était quand même un fondement très important de notre société. Parce que là, ça amène l'espionnage, épier les gens. Encore là, comme tu dis, Damien, avec des données qui sont rendues anonymes parce qu'ils veulent juste avoir de la démographie sur qui vient dans leurs environnements, fine. Mais avertis les gens, arrête de travailler en hypocrite. Puis ça, je l'ai vu dans plein de centres d'achat. J'ai fait des surveys, des relevés de sites. Donc, entre autres, tu regardes, c'était pas dur, là. Tu allais juste sur la carte interactive et tous les endroits, il y avait cette caméra-là qui était en disponibilité et active pour être capable de documenter les gens. Et c'est là que c'est un peu, ça vient me rejoindre parce que, citoyens, si ça vous intéresse que ça n'arrive pas puis qu'on arrête de vous surveiller, mais il faut en faire des plaintes aux différents paliers à chacun des élus qui sont des élus publics qu'on paye. Ben, ils sont supposés de travailler selon notre vouloir, et c'est-à-dire d'aller arrêter d'avoir ces choses de qui pient nos moindres faits et gestes malgré que notre consentement. Damien?
Non, c'est intéressant ce que tu dis. En France, il y a une société qui proposait ce même type de caméra dont les caméras étaient dans les yeux des mannequins dans les vitrines. Comme ça, du coup, ça permettait de savoir où on regardait, combien de temps on regardait, quels vêtements, etc. Le marketing, c'est génial. Ça permet de proposer véritablement des produits précis à des personnes, mais on se rend compte que cette fusion de savoir ce que veut mon consommateur, c'est les pieds, mais c'est plus les pieds, c'est de la cybersurveillance. Et ça peut aller très, très loin. On voit cette société chinoise qui s'est fait rançonner, j'ai oublié son nom là, il y a 3 semaines, qui était très fière de mettre sur son site qu'elle avait une caméra qui permettait de dire si la personne qu'elle est en train de filmer avait de la température. Il faut pas que cette caméra nous filme lors, par exemple, du Hackfest, vu le degré d'alcool qu'il y a dans le sang. Hein, la température, elle est comme ça. Hein, donc.
Et ça, t'apporte un point très intéressant parce que là, les universités, les collèges ont commencé à faire justement des propositions pour tenir des examens à distance. Et tout comme Pearson View, lorsqu'on fait des certifications professionnelles, la raison d'être capable de le faire à distance, c'est d'être capable d'avoir une caméra qui épie la personne qui fait le test. Donc, pour être capable de voir la personne qui est concentrée à répondre juste en avant, et non pas en train de chercher dans des références.
Je suis d'accord, mais va expliquer aux gens qui n'ont jamais connu ça. Je prends une certification, des fois, tu as des certifs qui durent 48 heures où tu peux pas bouger, tu es obligé de dormir au même endroit, que la moindre personne qui rentre, tu es obligé d'expliquer que c'est ta femme ou que tu es en train de manger. Tu fais pas ça parce que tu es pas en train de tricher. Va expliquer ça aux gens. Alors là, ça va être l'enfer.
Alors ça amène tout cet ordre d'idées-là que les universités, là, je crois qu'ils veulent juste avoir aller dans une direction, c'est d'avancer puis faire avancer l'éducation, puis le programme surtout, et que les étudiants, ben ils n'ont pas le choix que d'accepter l'intrusion de cette application-là sur leurs équipements personnels et qu'il y a personne qui vient contre-vérifier là, qu'est-ce que ça fait de plus, là, parce que j'en ai eu deux cas qui m'ont été soumis et c'est pas Jojo, m'a dire honnêtement. Puis j'ai suggéré à ces gens-là, je les ai donné les informations, porté plainte à ces autorités parce que ça vaut la peine d'être exposé.
On va prendre un exemple très concret que moi je vis avec ma famille, avec mes filles. Elles sont maintenant avec tablette, avec obligation d'une connexion Internet, avec les cours avec les profs et les logiciels. Ça a un coût, mais on a fait une manière à ce que ça soit pas connecté à notre vie privée, à notre informatique. Mais on a la chance de pouvoir le faire. Donc, on s'est créé un petit budget pour ces secteurs-là. Mais aujourd'hui, tu dis à une personne, à des parents, ben voilà, votre enfant va être connecté avec son prof, avec des logiciels que le prof ne maîtrise pas parce qu'il sait pas le code source, etc., qui va être obligé de créer des comptes avec des mots de passe, avec des mails. Mais qui va se créer un mail dédié à l'éducation? 1/10? 1/100? C'est pour ça que c'est génial de pouvoir faire de la visio, etc. Il y a tellement d'outils à mettre en place pour se protéger un minimum. Je parle même pas d'un max, hein, parce que le max, on peut pas. Mais un minimum, voilà, on a inventé une nouvelle roue. Il faut juste que cette roue nous écrase pas, en fait. Hein.
On a inventé la capacité de nous aider à surveiller tout le monde en même temps. Puis on est juste comme content de se faire surveiller tous en même temps. C'est un peu fascinant. Ton exemple d'université, ce qui est un peu triste dans tout ça, parce que tu sais, on essaie de répliquer le modèle d'évaluation qui était le modèle d'évaluation quand on était physiquement dans les lieux, dans le monde virtuel, et ça ne se réplique pas. La connaissance qui nous est transmise par ces institutions-là, qui vient ensuite vérifier si on maîtrise cette connaissance-là, est-ce que ça nous sert de genre de vomir tout le contenu de ce qu'on a fait ou de voir si on a bien maîtrisé le sujet? Et une des façons de faire, puis j'ai eu certains cas à l'université qui, heureusement, me permettaient d'être à livre ouvert. Cela étant dit, l'intensité du contenu fait que c'est juste, si tu maîtrises pas, même si tu as accès aux données, tu n'es juste pas capable de suivre. Parce que faut que tu maîtrises, faut que tu es préparé, Donc, l'objectif de ces institutions-là, c'est d'arriver à une maîtrise du contenu. Puis là, ils évaluent juste strictement que tu es capable de dire tel mot à telle phrase, à telle place, de telle façon, parce que tu l'as mémorisé par cœur, tout ça. À mon sens, je pense qu'on s'éloigne de la mission de ces maisons d'éducation-là.
Voilà.
De ces institutions-là. On est en train de juste répliquer parce qu'on comprend pas.
Ben, c'est une faiblesse de la part du corps professoral de ne pas faire justement, ne pas bien mesurer ce que l'étudiant a appris et que l'étudiant est capable de maîtriser. Ayant préparé des examens par le passé, là, c'est pour ça que je me permets de commenter comme ça que c'est une forme de paresse et l'utilisation de la technologie pour être capable de surveiller justement comme la conformité auquel que les étudiants vont se rallier, ça va satisfaire les besoins d'enseignement. Ça, je crois pas à ça moi non plus.
Effectivement, de toute façon, en tout cas, du moins au primaire puis au secondaire, ce que j'ai pu constater, c'est que les profs, ce qu'ils font, ils valident la maîtrise du sujet pour aider les étudiants à avancer dans le sujet. On arrive à l'université, c'est juste vomi ce qu'on t'a garoché, puis on va espérer que ça passe bien, puis on va te donner un diplôme parce que t'es capable de bien vomir.
Je suis d'accord avec ça.
Oui, bon, ça tousse. Okay. Comme ça tousse, attention, n'allez pas chez Damien, il tousse. Ça projette à quoi? 8 mètres que vous disiez tantôt?
Mais bon, on va avoir un problème maintenant, c'est le pollen.
Oui, exactement, oui, c'est la saison.
Le monde va tousser, ils vont s'éternuer pour ce genre de choses-là. Bref. Damien, la prochaine nouvelle, c'est celle de Damien, où les micro-entreprises ont certains enjeux au niveau de la sécurité, puis ça, on le voit largement, puis moi-même étant une micro-entreprise, et Steve aussi d'ailleurs, on vit des défis de ce genre-là. Nous, on est quand même connaissant d'une bonne base. C'est pas le cas de tout le monde, donc ça présente des enjeux.
Ouais, c'est ça, Nico. On en avait parlé un tout petit peu il y a un petit mois sur. J'avais détecté en fait Sodonikobi, vous savez, hein, ces fameux, opérateurs de ransomware, hein, comme Maisy, comme Drupal, et voilà, j'en suis 18 groupes en ce moment là qui font ce genre d'attaque. Et ce qui était malheureusement intéressant dans cette dernière détection, c'est que Ils se sont attaqués aux PME et donc au télétravail. Comment? En injectant dans des blogs qu'ils avaient piratés, donc des blogs d'auto-entrepreneurs, de micro-sociétés, voire des blogueurs tout court. Ils avaient donc trouvé le moyen, et en tout cas ils ont, et ils continuent à le faire, à s'attaquer à des blogueurs, à leur site, à y cacher à l'intérieur de faux forums. Alors l'idée c'est quoi? C'est soit des faux forums sur les impôts, soit des faux forums sur les recherches d'emploi, et dans lequel il y a des conversations d'inconnus, et qui disent, tiens, là, il y a un document à télécharger pour tes impôts, pour une lettre de motivation, etc., etc. Et en fait, quand on clique sur ce document, c'est Sodonikobi qui est en train d'infecter et d'infiltrer l'ordinateur et qui chiffre pour une demande de rançon. Et c'était malheureusement intéressant de voir qu'on a beaucoup parlé, on en parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure avec une ville américaine, rançonnée. Mais il faut pas oublier que ça touche avant tout aussi tout le monde, pas que les grandes sociétés. Les grandes sociétés, on les montre de doigts, vu qu'elles sont grandes, puissantes, avec de l'argent, avec des gens qui sont capables d'appeler vos employeurs pour dire ce qui est dit est un mensonge, sauf qu'après on se découvre que c'est pas un mensonge. Le particulier, les PME, les micro-sociétés, protégez-vous, informez-vous. Déjà, si vous nous écoutez, c'est bon signe, c'est rassurant. S'informer, c'est déjà sécurisé. Dites-vous que les pirates en face, et surtout des groupes comme, je vous disais, Maisy, Sodonikobi, Dropol, il y en a plein, j'ai tellement de noms là en tête en ce moment. Eux n'ont aucune pitié. J'ai fait là, on en parlera tout à l'heure avec cette ville américaine, où j'ai pu de nouveau interviewer Maisy et puis deux autres groupes qui attaquent en ce moment. Leurs propos, c'est des propos de fous furieux. C'est le Covid-19 à côté, c'est rien du tout. Les mecs, ils fusionnent la peste, le choléra, Ebola. Puis vous faites un check-up et vous avez ces pirates-là. Et je dis ça pourquoi? C'est que, attention, c'est que quand ils volent des informations, parce qu'ils volent des informations, maintenant, c'est enfin acté. On a enfin les preuves, en tout cas... c'est eux qui les fournissent, parce que ceux qui avaient les preuves comme moi, on pouvait pas les fournir, parce que ça voulait dire mettre en avant des sources et surtout mettre en danger des lieux de surveillance qu'on avait contre eux. Là maintenant, les mecs, ça va, ils ouvrent des supermarchés où ils diffusent tout. Et là, le super danger, c'est comme ils diffusent tout, les PME sont en train de perdre, celles qui se font impacter ont perdu leur site, leur image, parce que du coup, quand vous êtes sur le site, d'une chambre d'hôte ou de quelqu'un qui fait de la livraison de repas qu'il fabrique lui-même et qu'il a piégé des gens involontairement, son image est édulcorée aussi. Sans compter que peut-être ses informations lui ont été volées. Ses clients vont lui être volés ou vont être attaqués par son biais. Et puis toutes les informations qui sont volées, les fiches clients, les noms, les prénoms, sans compter les données, on en parlera tout à l'heure, des données personnelles, voire très sensibles de la police. Donc voilà, je trouvais intéressant qu'on revienne sur cette actualité-là parce que arrêtons de dire ça n'arrive qu'aux autres. Pensez virus, pensez grippe. Quand vous aviez la gastro à Nouvel An et que vous dites « Oh, c'est pas grave », quand vous aviez la grippe ou que vous l'aviez pas parce que « Oh, moi, je l'ai pas, ça n'arrive qu'aux autres », comme le Covid-19, je peux peut-être l'avoir parce qu'à première vue, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'informatique et la cyber, c'est exactement pareil. On ne doit pas se dire « Pourquoi moi ?» mais je vais tout faire pour que ça ne m'arrive pas parce que je ne sais pas quand.
De toute façon, c'est intéressant que Covid va nous amener des analogies avec l'informatique, ça va nous servir à l'avenir, mais tant qu'à avoir ouvert la porte, c'est la ville américaine Torrance.
Oui, c'est ça. La ville de Torrance, c'est cette semaine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une ville californienne, pour ceux qui n'ont pas la géographie comme moi dans la tête. Je suis un menteur, je viens de le relire parce que je ne savais plus trop où c'était. La ville de Torrance, cette semaine, son site est tombé en panne. Alors, je vais être très clair avec vous, j'ai des amis qui m'ont contacté, qui sont basés là-bas sur place et qui m'ont dit « Écoute, tu nous as tellement bien expliqué comment ça pouvait être les prémices d'informations considérant qu'il y a eu une attaque de ransomware, qu'on t'alerte. » Et ça n'a pas loupé. La ville de Torrance, son site internet est tombé en panne. Ils ont fait un rebond. Donc ça veut dire qu'ils ont créé un deuxième site d'urgence. Très bien, communication de crise. Parfait. Service public, rendu au public, ça c'est très bien. Ça, on peut que leur tirer le chapeau de cette création. Mais mes potes et ma copine me disent, coucou Marlène, elle me dit, écoute, il y a un second site, le mec il vient de donner son prénom, sa ville, elle est morte, c'est fini, soyons très clairs. Elle me dit, écoute, oui, mais sur le deuxième site, on n'a pas accès à certains outils habituels. Donc là, elle me dit, écoute, tu m'as tellement expliqué certains détails que je t'alerte parce que pour moi, ça ressemble, ça a pas loupé, c'est un ransomware. La ville n'a pas communiqué sur le sujet. Elle explique sur son site qu'elle a un petit problème de serveur. Ok, le petit problème de serveur, c'est un ransomware. C'est Sodonikobi qui est passé. Comment je le sais? C'est que Sodonikobi a commencé à diffuser des informations internes. Le gros problème avec ces pirates, c'est qu'avant, ils prenaient du temps. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant de dire on les a pris en otage, maintenant on fait une deuxième prise d'otage où on leur demande de l'argent pour pas diffuser. Le plus dramatique, c'est que pour le coup de la mairie, ils ont mis une semaine, ceux de Nicobi. Ils ont même pas cherché à comprendre. Une semaine, et ils ont commencé à diffuser des informations, mais j'en saigne du nez des oreilles, tellement c'est fou. Et parmi les informations qu'ils diffusent, les fiches de la police. Toute personne arrêtée a le droit à sa jolie fiche. Photo, nom, prénom, identité, où elle vit, pourquoi elle a été arrêtée, la caution, son numéro de sécurité sociale, son numéro de permis. J'ai eu accès, et il y a encore accès, à des centaines de fiches de la police de cette ville. Ah, elle n'en a pas parlé, la police. Hein. Et à première vue, la mairie n'en a pas parlé. Elle n'a pas informé en disant bah, « Écoutez, on a un problème, les pirates nous ont volé des informations vous concernant. Voilà ce qu'on met en place pour vous protéger maintenant comme on peut. » Je vais être très clair avec vous, c'est mort. Hein. Toutes les fiches, et je prends que ces fiches de la police, le mec qui picole, la dame qui frappait ses enfants, l'accident de voiture, ou des crimes encore plus graves, même si je considère que frapper ses enfants est un crime voilà, impardonnable. Mais toutes ces fiches, maintenant, sont dans la rue numérique. Et que cette mairie qui a fait toutes les procédures pour ouvrir un nouveau site Internet, j'espère qu'elle va prévenir tout le monde maintenant. Je m'en suis chargé, hein. J'ai été très clair avec vous, j'en ai fait une brève en disant, ben voilà, ce site a eu un problème, mais plus qu'un ransomware qui a pris en otage des petits fichiers. Non, non, non. Les mecs, aujourd'hui, j'entends par là les pirates, ils prennent leur petit sac à dos. Dites-vous que c'est les sept nains. Il y a Grincheux, il y a Simplet, il y a Prof, il y a Atchoum. Non, pas Atchoum. En tout cas, il y a les sept nains. Et chacun sa mission. Et cette mission, pardon, elle n'est clairement pas pour nous aider, hein. Donc voilà, je trouvais intéressant de revenir sur ça. Je parle pas de Maisie qui a diffusé en 24 heures 12 sociétés d'un coup qui sont des assureurs, hein, qui sont des gens qui s'occupent des assurances sociales pour les gens qui sont au chômage. Vous imaginez toutes les données qu'ont ces assureurs? Voilà, il y a un moment, pardon, mais je pense qu'il va falloir trouver un moyen de péter les genoux. Bon, déjà à ces pirates, hein, soyons très clairs, mais aussi à ces entreprises qui se disent « Mais pourquoi ça va m'arriver? Je pèse des milliards. Regardez toute la cybersécurité. What the fuck, les gars? Ah ouais? Vous êtes tous en centralisé. Ah ouais? T'as pas formé ton personnel parce que ça te coûte trop cher. Mais cette pauvre secrétaire, sans être péjoratif, que t'as pas voulu former parce qu'elle te coûte cher, déjà que tu la payes $2, cette pauvre fille a cliqué sur un lien parce que dedans, il était marqué que l'entreprise devait payer soit ses impôts ou juste le bail. Parce que Maisie, dernièrement, a piégé beaucoup d'assureurs, qu'ils étaient tous dans le même bâtiment. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait passer pour le logeur. Et puis, ils ont envoyé un petit courrier en disant il y a un changement pour la mensualité de votre loyer. Avec le Covid-19, on vous en offre 3 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Clic. Et puis maintenant, les gens, ils font... Ils pleurent. Ils ont plus de site, ils ont plus de serveur, ils ont plus de données. Mais pleurer, c'est rien. Demain, vous allez hurler. Parce que quand vous allez vous rendre compte de toutes les données qui ont été volées sur vos clients, patients... C'est un vrai problème. Donc là, quand je vois tous ces professionnels qui se sont dit on se tient la main pour protéger les hôpitaux, pour combattre les ransomware, mais les mecs ils dansent, hein, les dernières interviews, allez la lire de Maisie se donner Kobe. Mais les mecs, quand je ferme les yeux, et je le fais vraiment, hein, pour ceux qui ne voient pas, je les imagine à la plage, en train de faire des claquettes avec leur picolada, en disant voilà, je plains nos autorités qui essayent de les attraper. Hein. Mais en attendant, ça fuite, hein, c'est un vrai problème.
Et tant qu'à parler de fuite et de fraude de cette nature-là, Steve, Hydro-Québec, les clients d'Hydro-Québec ont subi certains appels ou frauduleux?
Oui, c'est inévitable, encore une fois, puis on en parlait au cours des dernières semaines, que le charlatanisme, que le cybercrime ne se repose pas, tout comme ce que Damien vient d'apporter. Ils sont beaucoup à l'œuvre pour être capables de profiter de la naïveté des gens et surtout de l'émotivité à fleur de peau des gens qui sont prêts à embarquer dans n'importe quoi que lui suggérer ou imposer. Et justement, le fait que on est à la fin de l'hiver, donc les gens qui des fois ont accumulé des certaines factures, tout ça mis en contexte avec le fait que les gens sont à la maison, ils ont juste sans faire. Reçoit un coup de téléphone. La personne se fait passer pour un agent d'Hydro-Québec et voilà, ils veulent mettre la main encore une fois sur des numéros de carte de crédit ou des numéros de compte pour être capable d'aller à ce moment-là faire les transactions par les gens. Et combien de fois, Damien, au Hackfest, que ça a été fait comme exercice et que c'était quoi? Un gage de succès, n'est-ce pas?
Ah mais clairement, et c'est intéressant que tu viennes sur Hydro-Québec, il y a eu aussi le cas pour Desjardins la semaine dernière où j'ai en fait découvert une attaque où les pirates ne s'intéressaient qu'au numéro de téléphone. Ils ne s'intéressent pour le moment qu'au numéro de téléphone. Du coup, ça veut dire qu'ils ont des numéros qu'ils génèrent automatiquement ou qu'ils ont des listes. Hein, des listes, j'en ai des milliards, c'est fou. Mais et les gars, en fait, ils envoient d'abord la première attaque, cyberattaque, juste pour s'assurer qu'il y a bien un humain derrière le numéro de téléphone.
Exactement.
Je crains ce qui arrive.
Et ça, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est souvent un numéro qui n'y a aucune interaction. Et une des façons de combattre ça, c'est de ne pas répondre. Et je fais ça là en gardant le téléphone à l'oreille pendant 6 secondes, en ne disant rien. Généralement, quand il y a un humain réel, pour un appel réel, va demander l'humain. Lui-même va créer le challenge. Ça va être « Hello? Y a-t-il quelqu'un? » Tu sais. Alors que si c'est nous qui le faisons envers la machine, à ce moment-là, détecte qu'il y a activité humaine et de ce fait, prend en note que c'est vraiment un numéro à réessayer plus tard pour justement des vrais opérateurs. Souvent, j'ai découvert aussi dans certaines recherches que j'ai faites que ce sont des war dialers, excusez le terme technique, mais c'est des automatistes qui vont systématiquement aller chercher des numéros de téléphone assignés et vérifier s'il y a vraiment un abonné au bout. S'il n'y a pas d'abonné au bout, donc il y en a encore des fois des numéros de téléphone qui ne sont pas assignés, il fait partie à ce moment-là d'une liste de numéros de téléphone qu'ils peuvent utiliser pour faire justement des appels inopportuns. Et lorsque vous voulez retracer à qui appartient ce numéro-là, en faisant une recherche inversée, ben ça tombe dans le nulle part parce qu'il n'est pas assigné à personne. Donc, avec une téléphonie IP, c'est possible de faire passer, d'utiliser ce numéro-là qui a été capté, qui a de l'air réel, parce que si vous connaissez des gens dans le 418, dans le 819, puis qui vous appellent, ça se pourrait qu'il y ait un potentiel de connaissance qui vous appelle. T'sais. Mais si c'est dans l'international, là, ça s'est brûlé, ça fait longtemps, puis personne ne répond, c'est correct. Mais quand c'est un peu plus près de nous, oups! Là, on porte plus attention. Et de ce fait, c'est là que les mesures du CRTC d'ici le septembre 2020 ben, vont aider à corriger ce genre de situation-là. Damien?
Ah, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Moi, je me suis créé un numéro de téléphone ici au Canada que j'ai généré. Comme ça, je sais d'où il vient. Alors, on en parlait tout à l'heure. Hein. Malheureusement, ça a un coût de se protéger comme ça. Mais je me suis dit, pour me protéger, j'ai créé ce genre de choses. Et là où les pirates sont malheureusement très forts, sans en faire une valorisation, mais ils se fusionnent avec des vraies informations, des vrais contenus diffusés. Donc, du coup, pour l'utilisateur de, mais même pas de base, de tout le monde, à tout moment, il faut vraiment être super vigilant, parce qu'à tout moment, on peut se faire avoir. La preuve, j'ai reçu un mail me disant que Pornhub m'offrait 3 mois. Je suis allé vérifier. Il m'offrait vraiment 3 mois. Ah, je me suis abonné.
Voilà. Mais là, ça, Damien, là, je te rejoins parce qu'il faut encourager l'économie locale. Pornhub, c'est une industrie de Montréal. Donc.
Ah, ben, tu connais. Ah ouais.
Et voilà. Et voilà.
Mais bon, plus sérieusement, voilà, tout ça se fusionnant avec du vrai, du faux. Et aujourd'hui, moi, je vais être très clair, hein, j'ai créé plusieurs téléphones ici locaux, dont un qui est en Terre-Neuve, donc au fin fond là-bas du Canada Grand Nord. Quand je le donne, ce numéro de téléphone, les gens me disent, mais ça vient d'où, c'est quoi? Mais on peut se générer des numéros de téléphone par région, etc. Et donc, les pirates, ils vont pas se gêner pour le faire, hein. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas. Juste Skype. Tout à l'heure, j'ai vu que Skype, je pouvais me générer un numéro de téléphone en Inde.
Tout à fait. Puis de toute façon, moi, je l'ai vu, puis dans le fond, c'est une accélération, une démonstration de ça. J'ai reçu des appels frauduleux, mais avec les 3 premiers chiffres de mon numéro de téléphone, puis les 4 derniers différents. Ce qui me donne cognitivement l'impression que c'est un numéro trusté, un numéro de confiance. Ce qui fait que je vais avoir plus tendance à y répondre que si c'était pas ce genre de choses. Fait que ils sont très, très ingénieux pour réussir à nous tromper nos filtres cognitifs pour ce genre de choses. Et tant qu'à parler de porn, il y a eu la sextorsion, Steve? Allô?
J'aime ça les fastballs de même, là, tu sais. Hein? Oui, sextorsion. Qui dit contexte difficile dit sextorsion. Et oui, les malfaisants, ils en ont profité justement pour être capables d'influencer jeunes et moins jeunes. Enfin, faut pas se cacher qu'il y a des adultes qui tombent dans le panneau. Et encore une fois, en confinement, ça veut dire en isolation, ça veut dire que les gens se croient à l'abri de tout soupçon et tout regard parce qu'ils sont concentrés à rester dans les confinements de cette caméra-là et en avant du clavier se disent parfaitement isolés et personne autour va les voir parce que ils se disent juste que je suis sur Internet et personne ne sait qui je suis. Et donc, de cette façon-là, l'idylle amoureuse apparaît et tout d'un coup, la grenouille se transforme en princesse. Et de ce fait, ben, il y en a qui continuent à envoyer des photos osées. Et des photos osées, et ça passe aux vidéos après ça. Et après coup, vient le chantage, vient les demandes d'extorsion de la part de ces criminels. Mais là, ça prend une autre tournure. Et il y en a qui ont été documentés, qui se sont fait même menacer par armes à feu et armes blanches à l'autre extrémité. Et ça commence souvent avec l'utilisation des médias sociaux, des nouvelles plateformes comme TikTok, House Party, qui, eux, à ce moment-là, procurent une forme de facilitation sociale, rendent les gens à l'aise, donc baissent les gardes, et les jeunes et moins jeunes, ça donne après ça aller dans des forums un peu plus privés, soit sur Messenger ou ailleurs. Et après coup, donc, s'engage une conversation que là, c'est quand la personne répond en tout point à l'amour de sa vie, mais qu'est-ce qui arrive? Justement, toutes gardes sont baissées. Toute information est véhiculée, photo à l'appui. C'est comme ça que les services policiers en sont submergés récemment de plaintes, justement, qui arrivent des situations malencontreuses comme ça. Damien?
T'es en train de me dire que Tatiana, la superbe blonde qui m'a écrit de Moscou, elle n'existe pas?
Je vais pas te décevoir, Damien, elle m'a écrit avant toi.
Salope.
Malheureusement, il y en a des comme ça, faut pas se leurrer. Et
je taquinais, c'est pour le gros mot, mesdames, pardon. Hein. Mais non, on n'est pas, nous, on n'est pas dupes. Hein. Mais là où t'as complètement raison, et on en parlait, je crois qu'on en a parlé l'année dernière, ça vise aussi et surtout les personnes âgées seules. Rappelons-le, vérifiez quand même toutes les personnes fragiles socialement parce qu'elles sont seules, divorcées ou veuves. Et pour avoir eu des cas dramatiques où on leur fait croire qu'ils vont prendre l'avion, qu'ils doivent aller voir un médecin et qui, pour certaines, ont pu dépenser l'intégralité de leur retraite dans des fantoches, très clairement. Voilà, je pense aussi que c'est de la responsabilité de tout le monde de veiller à son prochain. Moi, dans les formations que je peux faire en entreprise, je dis souvent, vous vous dites pas bonjour dans la rue, vous vous dites pas bonjour comme ça ou de loin, mais par contre sur Internet, le premier bout de sein qui va apparaître ou le premier bout de zizi qui va apparaître, oh là là, ça va être la fête. Non, en entreprise, quand vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas bien, un divorcé ou que, bah, de l'empathie un peu, parce que c'est des gens qui vont être beaucoup plus fragilisés. Et comme ils sont beaucoup plus Tatiana, bah oui, c'est elle. Bon, ok. D'accord. Je vais lui écrire pour qu'elle me rende mon argent. Hein. Chérie, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai.
Bonne chance. C'est ça.
Après, elle peut dire qu'elle va pas vendre mon argent. Mais il est important aussi parce que ces gens-là, si elles se font piéger par de la sextorsion, qu'est-ce qui me fait dire qu'elles ne vont pas se faire piéger par de la manipulation qui va leur demander de payer non pas par de l'argent, mais par des données de votre entreprise?
Souvent, okay. Ça vient comme ça, comme tu dis, puis c'est le maillon faible qui est exploité. Non pas par des fois la demande de rançon, mais après ça, pour le chantage qui vient par la suite et gagner des accès privilégiés. C'est vu souvent. Écoute, on parle de romans des années 80-70, là, d'espionnage du bloc de l'Est qui amenait des belles Russes comme on vient de présenter. Je sais pas si on le voit à l'écran, Nick, mais c'est là que toute la façon de procéder dans du human intelligence, ben c'est le terme militaire, désolé, là, j'ai été formé avec ça, mais de prendre un renseignement humain comme ça et donc d'amener l'agent et va être capable de s'adonner avec l'autre partie et capable de l'amener à diriger puis combler tous ses désirs et bonheurs ben justement pour être capable d'aller l'assouvir et d'avoir accès à ce privilège d'information ou d'accès à l'information potentielle. Fait que oui, là-dessus, ce qui est fascinant, c'est qu'encore une fois, faut que les parents aient cette conversation avec les jeunes pour être capable de les éduquer et de les amener à comprendre que on sait jamais qui est l'autre côté du clavier. On sait jamais c'est quoi l'intention de la personne derrière du clavier. Donc, prenez ça au premier degré, c'est de l'entertainment, autrement dit, c'est fait pour s'amuser tout bonnement, d'aller plus loin, de s'investir vraiment humainement parlant plus loin que cette étape-là. Vous êtes toujours bien d'aller concevoir ça dans un lieu physique, puis peut-être avec la compagnie que vous avez confiance avec pour valider.
En petit détail, pour toi, monsieur qui nous écoute, ou aussi pour toi, madame, que tu aimes aller sur Tinder ou ailleurs pour trouver une petite aventure dans ton couple, dis-toi que c'est pas bon. Hein. Je dis ça parce que là, dernièrement, ont été dit encore des nouvelles bases de données de sites que je ne citerai pas parce que c'est pas encore rendu public. Voilà, c'est très intéressant aussi de voir, malheureusement, que le pirate va utiliser, comme tu disais, Nicolas, hein, l'aspect humain. Ne venez pas pleurer après, en fait. Hein.
Ouais, mais Ashley Madison, c'est public rendu déjà, Damien, puis ça, c'est tout. Non, je sais, c'est un autre. Mais c'est un exemple que l'Ashley Madison, d'il y a 5 ans, présentement, il y a des campagnes de pourriel qui ont lieu, qui sont envoyées avec le vrai mot de passe qui a été décodé de cette base de données-là. Et là, les gens paniquent parce que il y a un vrai mot de passe, là, ils ont eu accès vraiment à mon ordi alors que le texte est composé comme ça. C'est fou. Et j'en ai parlé depuis un mois à je ne sais pas combien de douzaines de personnes pour le faire comprendre et réaliser que le mot de passe qui a été dévoilé dans le courrier électronique ou ailleurs a été utilisé, ce mot de passe-là. Et là, soudainement, révélation, ben je me sers toujours de ce mot de passe-là. Et on est en 2020. Quel est le mot de passe le plus populaire en 2020, messieurs, toujours à ce jour?
J'aime maman.
Peut-être en France, mais dans la vraie vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça demeure le numéro 1. Et rendu numéro 4, password. Pas faire mieux.
Juste pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah là là, j'ai changé mon mot de passe », dites-vous que c'est mort. Hein. Parce que quand on parle de Ashley Madison il y a 5 ans, je vous parle même pas de ce qui est en train de fuiter en ce moment, qui dites-vous qu'avant que ça soit dans les mains de Troy Hunt et compagnie, les pirates, il y a longtemps qu'ils l'ont épluché, votre mot de passe et votre mail. Et donc, voilà, quoi, hein, soyons très clairs, il est trop tard. Hein, arrêtez de pleurer, ça sert plus à rien. Mettez plutôt un cierge.
Mettez des mots de passe différents sur chacun des sites, mais oui, effectivement, j'ai été confronté à des campagnes de phishing avec des mots de passe. Et malheureusement, ça fonctionne. C'est ça qui est triste là-dedans, c'est que les gens, comme ils utilisent le même mot de passe partout, dès que ce mot de passe est diffusé par un spam ou un phishing, ils croient que ils se sont fait avoir. Mais là, dude, il est trop tard. Ça fait 5 ans que ce mot de passe circule dans Dark Web. Fait que si on avait siphonné sur tous les sites que le mot de passe existe, c'est fini. C'est fait. Votre identité existe maintenant dans le dark web et elle est revendue par d'autres personnes pour d'autres choses.
Si un pirate avait des informations sur vous, il ne vous le dirait pas. Il vous les montrerait.
Par exemple. Bon, passons à un sujet peut-être un peu plus technique cette fois-ci. La norme Wi-Fi a été changée récemment et probablement pour le mieux. Steve?
Ben, pas nécessairement à changer récemment, Nick, mais bien, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir très rapproché, voire par la fin de 2020. Ça fait 2 ans et demi quand même que les fabricants travaillent, ben, plus que ça, mais en fait, 2 ans et demi qu'on entend de plus en plus parler que la norme Wi-Fi 6 va prendre sa place. Ça sort de où, ce Wi-Fi 6? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Ben oui, ils ont catégorisé, au lieu d'utiliser les termes 802.11abgn, qui sont 802.11n, donc Wi-Fi N par le Wi-Fi Alliance, qui ont nommé ça. C'est Wi-Fi 5 que ça prend maintenant la dénomination. Et Wi-Fi 4 devient ce qui était la norme 802.11g de l'IEEE. C'est surtout des normes avec lesquelles on a évolué durant les 20 dernières années. Parce que le Wi-Fi, comme vous savez, c'est commencé commercialement en 1997. Et là, on est là aujourd'hui à avoir peut-être l'engouement d'aller chercher Wi-Fi 6 sur le marché. Aller chercher, ça veut dire d'amener plus de vitesse, d'amener moins de latence, d'amener une utilisation d'une autre spec de bande passe, d'une bande de fréquence qui va être sans permis, la 6 GHz. Présentement, dans le marché, il y a 2.4 GHz, 5 GHz, et là, bientôt, on aura l'utilisation de 6 GHz. Et tout ça, ça vient aussi en conjonction d'utiliser ça compatible avec la 5G. Parce que la méthode de transmission du 5G va être très près, même il va utiliser sensiblement les mêmes fréquences à certains endroits, que la façon de transmettre l'information qui va être réputée avec Wi-Fi 6, qui est sous la norme IEEE 802.11AX. De ce fait, ça va faire en sorte que les appareils vont avoir maintenant une seule radio qui va être utilisée à l'extérieur du bâtiment, dans l'environnement libre cellulaire sous 5G. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, est-ce que la technologie du 5G ne sera pas capable d'aller donner le service comme on s'attend? Il pourra utiliser la composante Wi-Fi à l'intérieur sous Wi-Fi 6 et utilisera la même radio. Ce qui va faire en sorte que ça va donner des appareils beaucoup plus performants, une seule radio, moins de pouvoir de consommer, une batterie qui dure plus longtemps, pour être capable justement de profiter de cette technologie-là. Il y en a qui vont dire, ah, ben là, c'est comme on a vu avec Wi-Fi 5, donc 802.11ac, ça va prendre plus de points d'accès parce que la fréquence mène moins loin le signal, et c'est vrai, comparé, c'est 30% moins loin qu'exemple en 2.4 GHz. Mais ça va donner quand même une largeur de bande mauditement plus importante qui va permettre de faciliter justement la transmission de vidéos 4K, par exemple, avec moins de latence, tout ce qui est des trucs en temps réel, etc. Ça, c'est l'avantage que ça s'en va dans la direction de garder ça dans le 5 GHz et aussi dans le 6 GHz prochainement. Ce qui a amené les États-Unis, le FCC, à dire on adopte le 6 GHz, reste aux autres, dont le Canada, et aux autres autorités du spectre électromagnétique de chacun des pays à aller adopter le 6 GHz, parce qu'il y a déjà des applications comme dans le 5 GHz, vous avez l'application des radars de navigation aérienne et de météo, et pour ça, ils ont été obligés de développer l'IEEE, la norme 802.11H, qui permet justement de ne pas utiliser la même fréquence que si vous êtes proche d'un aéroport, de votre Wi-Fi, à venir créer de l'interférence électromagnétique sur une signature radar. Puis vous le voyez, ça, quand vous regardez des cartes météo, des fois, et vous regardez comment est-ce que le système dépressionnel se déplace, là, vous voyez de toute façon un lien, une ligne droite qui se dessine, tout comme ça, sur l'image radar. Mais ça, c'est un pont aérien dans la fréquence du 5 GHz qui a été capté par l'élément radar. Ça, c'est pour ça que je vous dis, lorsque c'est détecté par les appareils sans fil, sont en mesure, avec la norme 802.11H, de changer de fréquence ou de réduire la puissance de diffusion. Il est demandé que cette même norme-là soit applicable dans le 6 GHz, mais ça va suivre dans les prochains mois et années pour donner un produit qui va être fantastique. Donc, pour ceux et celles qui voudraient peut-être profiter de la COVID-19 restriction à la maison, de changer le routeur sans fil, je vous dirais, attendez, ça va valoir la peine lorsque vous allez être pas loin de Noël, quelque chose comme ça, puis je crois qu'ils visent peut-être d'introduire ça dans ce temps de l'année, et changer votre routeur pour qu'il soit compatible Wi-Fi 6 ou 802.11AX pour vous donner la prochaine capacité. Parce que dites-vous une chose, n'oubliez pas que présentement, il n'y a aucun appareil sur le marché, ou très peu, si mon souvenir est bon, j'en ai pas vu qui était Wi-Fi 6. Peut-être même, il y a une compagnie de sans fil qui ont fait des essais donc sur le marché avec des prototypes, mais commercialement parlant, il n'y a pas de laptop, il n'y a pas de carte externe, il n'y a pas de téléphone sans fil actuellement. Même le nouveau iPhone SE n'a pas Wi-Fi 6 d'intégré dedans. Donc, c'est pour vous dire que les manufacturiers travaillent, planchent là-dessus et vont donner justement les prochaines générations d'appareils capables de faire du Wi-Fi 6 en même temps que du 5G. Damien?
Tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on attende encore un petit peu quand même, pas se jeter tout de suite sur les premiers matériels qui sortiront côté sécurité? Je ne sais pas ce que tu en penses. Et Nicolas, d'ailleurs?
J'ai pas compris la question.
En fait, l'idée, c'est se jeter déjà sur le matériel qui vont accepter ce Wi-Fi 6.
Oui, oui.
Côté sécurité, tu vois, c'est, moi, j'attendrai encore un petit peu. Alors après.
Ben, là-dessus, j'ai oublié de mentionner que la protection du sans fil Wi-Fi 6 va être augmentée et mise à niveau avec WPA3. Ça va monter le chiffrement de 128 à 192 bits. Ça va changer la façon de gérer justement l'assignation de la cryptographie lorsqu'il y a des échanges entre les appareils. Mais ils ont fait déjà deux essais et il y a déjà deux correctifs qui ont été apportés à WPA3, alors qu'il n'est même pas sur le marché. Alors oui, tu as raison là-dessus, Damien. Les premiers balbutiements de la nouvelle technologie, il faut toujours peut-être attendre un petit peu. Puis il y a des correctifs alors qu'ils n'ont pas été détectés en lab et en essai. Cependant, ça s'améliore, ça s'en va s'améliorant. Nick?
De ça, ben, de toute façon, oui. Puis là, je rejoins un peu les points entre les deux. Pour ceux qui ont des vieux Wi-Fi à la maison, n'attendez pas ça pour upgrader, parce que maintenant, en confinement, les gens dans votre entourage vont exploiter vos
Wi-Fi. C'est quoi un vieux Wi-Fi, Nick? Hmm? C'est quoi un vieux Wi-Fi pour quelqu'un qui se demande c'est quoi?
B.
Oui, mais je sais.
111B. Les vieilles gimbales que vous avez achetées il y a 10, 15 ans même, dans certains cas. Ça, si vous avez encore des choses comme ça, s'il vous plaît, upgradez. Tu l'avais dit d'ailleurs dans un dernier podcast. Upgradez, vous êtes plus allé dans la dernière génération. Allez vers du N, qui est minimalement, qui est quand même plus moderne, qui fuit beaucoup moins, qui comprend les correctifs qu'on connaît. Les vieilles affaires n'ont plus les correctifs. Fait que ça n'est pas chiffré, c'est pas mal la même chose essentiellement. Fait que ça, puis un peu, Sergio, ben Damien, n'attendez pas, upgradez quand vous pouvez parce que vous êtes à la maison, vous êtes confiné, vous faites du télétravail. Mais quand cette technologie-là va arriver, effectivement, si vous êtes plus à l'affût de ce genre de choses-là, en même temps, t'apprenez, participez à la recherche en association. Bon, fait que suivons dans d'autres nouvelles plus techniques. Que chez Apple, il est possible de faire crasher un message encore une fois en envoyant un message.
Et oui, donc, on aime tous les produits Apple parce que c'est simple, parce que ça nous simplifie la vie en principe. Mais là, on apprend que justement, cette semaine, il y a des nouvelles façons qui ont été découvertes pour être capable de faire planter un téléphone pour un produit iOS, je devrais dire. Mais, paniquez pas, ce sont lorsqu'on utilise le langage pakistanais, qui était vraiment des caractères spéciaux qui ont, dans une séquence très déterminée, vont faire en sorte que le téléphone va planter. Fait que c'est pas nécessairement demain matin qu'en français ou en anglais, ça va nous apparaître en plein visage que nos téléphones vont être vont s'éteindre de leurs yeux vus. Mais par contre, c'est donne un indicateur que, oups, encore une fois, il y a des éléments là-dedans que c'est pas 100% proof, comme tu disais, Damien, tout à l'heure. Quand je dis proof, ça veut dire que c'est pas à l'abri de toute situation malencontreuse. Et encore une fois, parce que c'est été soulevé, moi, je suis content au moins que quand on l'apprend, déjà là, ça fait des mois que le fabricant, en principe, le sait. Et donc, ça fait des mois que le fabricant travaille sur un correctif. S'il y a une divulgation responsable, c'est la façon que ça fonctionne, ben c'est comme ça qu'on devrait être capable d'être protégé rapidement si ce n'est pas déjà fait. Comme la faille que tu as amenée tantôt sur l'exploitation des iOS avec un courrier électronique qui était interceptable depuis plusieurs années. Fait que donc, soyez à l'affût de ça. Ça rappelle tout simplement de garder, faire une bonne cyberhygiène et garder vos appareils à jour le plus fréquemment possible pour que justement ces genres de correctifs soient immédiatement mis en place dans vos appareils et continuer d'utiliser la technologie de façon agréable.
En plein ça, puis c'est un rappel parce qu'en plus qu'on est dans un contexte de télétravail où les entreprises permettent un peu plus de liberté sur l'usage des appareils personnels pour accéder à du corporatif, sachez que c'est important pour les entreprises de s'assurer que les applications que vous donnez à libre accès à vos employés soient sécurisées, donc soient sécurisées indépendamment du OS, que sur lequel, que ce soit Android ou iOS, qu'il y ait leur bulle protégée supplémentaire justement pour se soustraire à ce genre de problème-là. Le fait d'attaquer le iMessage dans ce cas-ci ne devrait pas pouvoir mener jusqu'à l'extraction de données dans Outlook, par exemple, ou dans Gmail, qui sont des applications qui sont fermées. Donc, voyez à ce que ces éléments-là soient mis en œuvre, appareil corporatif autant que privé, pour ce genre de choses-là. Fait que c'est comme un rappel que ces zones-là sont quand même utilisées pour extraire de l'information des entreprises. Et tant qu'à conscience, on va aller plus dans le monde Facebook. Steve, tu as deux nouvelles très intéressantes à ce niveau-là. Oui, toi. Même si ton micro est encore fermé.
Moi? Ah, bien sûr, ben, Facebook, ils ont annoncé hier, en fin de journée, une merveilleuse nouvelle qui vont faire un peu plus de compétition envers Zoom et les autres magnifiques compagnies de diffusion, de comment on dit ça, dont Aster, de téléconférence, on va les nommer comme ça, et ça permet d'offrir le programme, pas le programme, mais bien la plateforme Room, qui va permettre de faire de la téléconférence jusqu'à 50 participants à partir de la plateforme Facebook. Mais vous avez deviné qu'il faut être membre, un, Facebook, deux, après ça, vendre votre âme au diable encore, ça veut dire que pendant toute la conversation, vous devez rester conscient que tout ce que vous dites sera retenu contre vous par Facebook, hein, n'est-ce pas? Et si ça va à l'encontre des standards de la communauté, vous allez être mis dans la prison Facebook et mis à l'amende Facebook, et etc. Donc, je fais un peu de joke en voulant dire que voilà un autre moyen de communiquer un peu plus facilement. Autant que Zoom cette semaine, juste parce que on en parle maintenant, sous la version 5, présentement c'est 4.5.1 la version de Zoom, là, mais sous la version 5, ben là, ils vont finalement changer le mode d'encryption, de chiffrement, excusez, et va amener la possibilité de faire de l'encryption point à point. Mais fondamentalement, le produit public va transiter toujours par la Chine et le produit payant sera possible de faire des transits sélectionnés. Donc, si on est ici au Canada, on veut garder quand même le trafic en Amérique du Nord le plus possible, ben là, Zoom offre la possibilité dans le produit payant de le faire. La plateforme gratuite devrait demeurer possible d'acheminer le trafic vers la Chine. Anyway. Donc, ça donne plus de possibilités. Pardon, mais il y a toujours d'autres produits qui existent, n'est-ce pas? Dont Jamie, Jitsi, 8x8 qu'on utilise présentement, qui sont des plateformes sources ouvertes, qui sont vérifiables et qui sont quand même un peu plus fiables. Par contre, les plateformes commerciales, il y en a des fois qui aiment mieux les bells and whistles, excusez, les sonnettes et les clochettes de ces des produits comme ça. Donc, Cisco, WebEx, Skype, encore une fois, GoToMeeting, sont pas nécessairement top sécurité non plus. Il y en a beaucoup qui ont amélioré beaucoup, beaucoup depuis quelques semaines leur sécurité. Mais il faut regarder vraiment si c'est au rendez-vous. Exemple, Cisco, WebEx, je les ai creusés un petit peu eux autres. Et j'ai été chercher des documents techniques par Cisco, par les gens que je connais là-bas, et qui, encore une fois, c'est un document, c'est un front. Mais eux autres, à la grandeur de la planète qu'ils sont depuis longtemps, ils ont amélioré, je le sais, de façon technique quand même les choses, mais il reste que l'interface, et depuis longtemps, je leur ai dit ce commentaire-là, améliorez-la, tabarouette, ça fait 10 ans que c'est la même genre d'interface, puis que c'est poche au bout, excusez, là, je me permets un éditorial ici, pour être en mesure d'améliorer éventuellement le produit. Fait que le message est lancé encore une fois d'une autre façon. Mais par contre, regardez, comme faux, ça va être quoi les termes d'utilisation de Room de Facebook. Ça devrait être intéressant, mais en même temps, ce qui vient de Facebook, pour moi, je n'aime point parce que, comme WhatsApp récemment, je veux dire, ils se disent encore une fois victimes de toutes sortes d'attaques démagogiques envers le produit, mais il reste toujours bien que c'est une base de 2 milliards de personnes et ça peut qu'il y ait un petit peu de bug dans certains produits parce qu'ils ont quand même beaucoup à desservir.
Effectivement, d'ailleurs, WhatsApp est dans un contexte de poursuite aussi, je crois.
Oui, ben envers le groupe NSO. Le groupe NSO qui est un produit des ressources d'espionnage israéliennes, donc en cybersécurité, l'unité 8200 d'Israël, qui se veulent de faire eux autres de la contre-insurrection, de la contre-ingérence dans le cyberespace, ben donnent souvent naissance, une fois qu'ils ont fini le service militaire, donnent souvent naissance à des compagnies comme ça. Et le groupe NSO, c'est une compagnie d'espionnage vraiment cybernétique. Les plus intrusifs sur la planète et les plus subversifs. Excusez le terme des gros termes, là, mais et l'accusation récente qu'ils ont eue, le groupe NSO, mais c'est de la part de Facebook, qui l'an passé s'en sont pris justement à l'application WhatsApp pour être capable d'aller s'en prendre à Jeff Bezos. Jeff Bezos, pourquoi? Parce qu'il est c'est lui qui est propriétaire du Washington Post, qui avait donc M. Khashoggi qui travaillait pour lui. Et donc, vous voyez, c'est une grande chaîne pour aller jusqu'à atteindre le sujet, la cible d'intérêt de la part de l'Arabie Saoudite, qui ont engagé les ressources de NSO Group pour aller espionner et épier cette personne-là. Or, M. Bezos rencontrant le prince de l'Arabie Saoudite, bien, c'est à partir de lui qu'ils ont été capables d'infecter le téléphone de M. Bezos de par son application WhatsApp pour être capable d'épier ce gars-là. Fantastique, n'est-ce pas? Mais ça pour dire, c'est une histoire quand même qui a de l'air d'un méchant film, mais que c'est la réalité. Et donc, cette compagnie a même fait, le gouvernement canadien aussi, on apprenait cette semaine par des demandes d'accès à l'information, qui ont déjà tenté de les considérer, d'utiliser certaines composantes du groupe NSO pour être capable de superviser certains sujets d'intérêt lors de l'élection d'octobre 2019. Donc, c'est une compagnie qui fait affaire avec n'importe qui. De façon officielle, la compagnie se dit clean, dans le sens qu'ils font affaire avec des gens de bonne réputation. Mais quand on regarde en dessous, et lorsqu'il y a eu la série Cyber War de Ben McCoo, c'est un reporter canadien qui a suivi beaucoup l'évolution de hacking et de tout ce qui est cybersécurité. Et dans le 16e épisode de la saison 1, ils ont été vraiment faire un reportage au Mexique. Et le gouvernement mexicain, c'est-à-dire, s'en prend beaucoup à tout ce qui est journaliste là-bas contre le gouvernement au pouvoir. Et ils font l'usage vraiment très marqué de Pegasus, qui est le logiciel du groupe NSO, pour investir les téléphones iOS comme Android et être capable justement de connaître tout sur les sujets d'intérêt de cette façon-là. Donc, cette mise en accusation va faire quoi? Ben, ça va faire en sorte qu'ils ont identifié que 1400 personnes qui ont été impactées par ce genre de truc-là, et ça prenait d'une seule adresse IP aux États-Unis. Donc, l'enquête, la mise en accusation, c'est-à-dire le primitif, a sorti, et c'est comme ça que ça démontre qu'ils ont pris un serveur aux États-Unis pour être capable de mener ces attaques-là. Et de cette manière, on devrait en savoir dans les procédures judiciaires à venir sur qui en était impliqué. Mais à date, les feux pointent, justement, Facebook font ressortir que les feux pointent sur le groupe NSO qui utilisait des ressources en territoire américain pour épier des gens, surtout des journalistes.
Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pourquoi aller se louer un truc aux États-Unis alors que tu sais qu'on va pouvoir le remonter, alors que tu vas aux îles Caïmans, tu vas aux Philippines, t'as aussi là où tu... Alors, c'est pas une proposition, hein. Je peux vous proposer des adresses si vous voulez. Mais pourquoi aller, surtout quand on met en place une structure de cyberespionnage qui a coûté beaucoup d'argent, qui demande quand même, voilà, de l'intelligence, de la cyber-intelligence? Mais merde, pourquoi ils ont pas été louer un truc à l'île Caïman? Ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus discret. Enfin voilà, il y a toujours cette petite erreur qui fait que on arrive à remonter. Hein, moi ça m'étonnera toujours en fait. Hein.
Ça me donne l'idée que c'est peut-être un ami d'un ami. Hein. Que c'est souvent le cas qu'on a vu par le passé, que c'est souvent facilitaire.
C'est ça.
Entre autres, mais en tout cas, tout ça est fascinant. Ces univers d'interconnexion sont très fascinants. Je pense qu'on va en connaître plus avec les années. On va finir avec deux nouvelles de Damien qui, pour les deux, ce qui est le point commun, le 21 avril.
Alors, je ne sais pas de quoi il me parle, mais moi je dis, je suis tout à fait d'accord. Alors, la première info, c'était plutôt une petite visite que je trouvais très intéressante, parce qu'on est tous là confinés chez nous, hein, devant nos ordinateurs, notre télé, ou en tout cas en famille. Et là, il y a une petite visite que je vous conseille fortement, qui est la visite de l'exposition Top Secret, qui a été proposée par le Musée de Londres. Alors là, je vois Nicolas se marrer, parce que je ne sais pas du tout quel était son lancement, qui était totalement bancal, donc je ne sais pas où il voulait aller, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Et donc, du coup, cette exposition, elle est plutôt chouette. Pourquoi ? Parce que ça parle de tout ce qu'a mis en place le Government Communication Headquarters, vous savez, le GCHQ, les grandes oreilles du Royaume-Uni. Et en fait, cette exposition a été visitée par Florian Brunet, qui est un membre d'une association qui s'appelle l'ARCIC, si je me trompe pas, et pardon si je l'ai écorché, en tout cas, c'est une association française qui regroupe des professionnels du chiffrement. Voilà. Et donc, du coup, il a été visité cette exposition. Et je trouvais intéressant, du coup, d'aller la visiter, nous aussi, en mode virtuel. Donc, c'est proposé sur le site directement. On vous propose le lien, d'ailleurs, sur sécurité.fm. Et vous allez voir, ça permet de voir autre chose dans l'informatique. Donc, ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Et pour finir, ce 21 avril, je sais toujours pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire, c'est parce que tes propres show notes que tu nous donnes, tu les as même pas suivies. Tu as dit qu'il y avait une escroquerie en crypto-monnaie le 21 avril.
Moi, je suis...
Il y avait des centaines d'adresses qui ont fuité le 21 avril.
Mais c'est parce que je bois vos paroles, les amis. Et puis surtout, je viens de me rendre compte que j'ai renversé mon verre de boisson gazeuse sur ma table et je la vois couler. Vous savez, comme cette avalanche qui s'approche tout doucement de mon disque dur. Donc voilà. Donc t'es pas gentil. Il a aucune pitié envers son enfant adopté. C'est pas grave.
Aucune pitié parce qu'il en a eu aucune avec moi.
C'est clairement ça, t'as raison. Ouais, donc du coup, merci d'avoir raccroché les wagons bancals. Ouais, non, en fait, on a repéré une petite escroquerie qui dure depuis quelques semaines, mais qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce que ça montre aussi que par les petites pièces de crypto-monnaie, de bitcoin que les pirates peuvent récupérer, eh bien, des petites pièces peuvent faire une grande rivière. Vous avez vu cette phrase, hein, j'ai recollé avec mon coca qui coule là tranquillement là-bas. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que des gars ont mis en place un bot qui envoie sur Pastebin, vous savez, ce site qui permet de stocker des textes et du code. Eh bien, ça envoie toutes les 15 minutes, eh bien, des fausses connexions SSH sur des serveurs, un serveur qui est basé en Russie. Mais pareil, hein, ça veut strictement rien dire. Alors, Ukraine et voilà. Et donc, du coup, vous allez sur ce Pastebin, vous avez une IP. Et donc, les gens rentrent l'IP, la tapent, rentrent le mot de passe. Ah oui, ils pensent faire partie d'un sérail où ils ont les secrets. Et puis là, apparaît un logiciel qui leur dit « Envoie-moi 0,01 Bitcoin et ça va te permettre d'en générer des dizaines d'autres. » Donc, bien sûr, vous doutez bien, moi, j'ai trouvé ça super sexy. Et en regardant l'adresse Bitcoin, on se rend compte que des gens, par Pastebin, donnent ce 0,001 Bitcoin. Donc, ça fait quoi par adresse? Grosso modo, j'ai 70 dollars. Pastebin, sauf que le mec en diffuse des dizaines, et vous imaginez, 10 fois 70, fois 7 par jour, fois 365 par an, enfin, c'est fou. Donc, de petites gouttelettes d'arnaque, les mecs se font beaucoup d'argent sur, la crédulité ou l'avidité. Choisissons le terme, ou en tout cas, la cible, qui pour moi, je pense, sont les deux mêmes, hein. Et donc, je finirai par la dernière brève du 21 avril. Je sais pas si c'est celle-là. Bon, c'est juste faire un petit coucou à notre meilleur ami, hein, le président de la Nord-Corée, hein. Bisous si tu nous regardes, qui quand même le mec se retrouve avec une recherche et une prime de 5 millions au moins de dollars du FBI si on fournit au FBI et au service de renseignement américain toutes les preuves concernant des attaques informatiques et de cyberattaques coordonnées par la Corée du Nord. Alors, je trouve ça très bien parce que du coup, ça va peut-être calmer les potentiels sbires de la Corée du Nord, mais d'autres pays basés, hein, au Canada, en France, aux États-Unis. Mais ça me rassure pas non plus. Ça voudrait dire que le FBI et les services secrets américains n'ont pas tant d'informations que ça. Est-ce qu'on nous aurait raconté avant est faux? Voilà, je sais pas trop. C'est voilà. Tiens, je vous donne une prime pour avoir des infos. Mais je croyais que t'en avais. Voilà, c'est ce qui prouve que la cybersécurité, on n'en est pas sorti, et que face aux pirates, on n'en est pas sorti non plus. Protégeons-nous, les amis.
Tu as bien rattrapé les balles, parce qu'effectivement, c'est les deux nouvelles en question que je pointais. Une étoile dans ton petit cahier.
Merci. Yes, yes.
Il est fort, Damien. Il est fort.
Parce qu'il m'interdit de manger si je dis pas tout.
Bon, ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Il reste quelques petites nouvelles qu'on n'a pas touchées puisque Damien et Steve cette semaine ont été ultra prolifiques. Fait qu'on est obligé d'en garder à peu près 4 ou 5 nouvelles à côté qui sont disponibles dans les show notes. Fait que là, j'ai eu affaire à 2 personnes prolifiques. Là, c'est un calvaire. Oh, c'est terrible.
très bien. Ça fait plaisir, Nick, ça va?
C'est... Vous faites un travail exceptionnel. J'ai des collaborateurs exceptionnels. On va terminer le live là-dessus. Puis là, j'ai Damien qui fait des folies encore. Fait que le prochain live sera le jeudi 7 mai à 20h. Donc, si l'information va être diffusée dans les médias sociaux, fait que vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là puis continuer l'échange que nous avons avec vous.
6h, ça veut dire qu'en Europe, en tout cas en France, il sera 6h du matin. Non, 4!
4 heures, oui. C'est pour les lèvres très, très tôt ou les couches très, très tard.
2h du matin.
2h, bon, 2h, je vois que une mauvaise maîtrise des fuseaux horaires. Bref, dans le tweet qui va être diffusé pour exprimer ça, les vraies heures vont être affirmées. Bref, fait que si vous voulez vous rejoindre à nous, un autre épisode comme ça, celui des plus de soir au Québec et donc plus de nuit en France ou en Europe en général. Sinon, en plus, plus tard en mai, on va avoir un autre épisode, un autre samedi, en après-midi comme celui-là, ce qui donne 20h en Europe et 14h au Québec. Donc, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot pour clore cet épisode?
Mouche ton nez!
Jette ton mouchoir! Lave-toi les mains, tous dans ton coude et reste à la maison.
Oui, alors, tous dans ton coude ou mouche-toi dans ton t-shirt, enlevez le t-shirt aussi. Un peu.
Et où? Ça va dans n'importe quel ordre, mais lave tes mains.
Plus sérieusement, protégez-vous. On pense à vous, en tout cas.
Ciao, bye. Lavez tout ce qui est nécessaire pour pas infecter les autres. Ce soir, sur ça, on va clore l'épisode. À la prochaine.